suite, c'est le énervé. Ça part sur le terrain du foot féminin ce soir. Mais avant de commencer, petite passe entre nos invités, histoire de caler les micros de chacun et de chacune. J'en profite pour faire les présentations et je commence par vous, Nadia Ben Mokhtar. Vous avez été footballeuse au FCF de Juvisy. Vous êtes aujourd'hui consultante auprès du service des sports de Radio France. Je vous félicite pour la Coupe du Monde. Ça vous va comme présentation?
Ouais.
Très bien. Jessica Ouara, vous êtes footballeuse professionnelle, consultante foot pour Canal+. Félicitations. On va vous retrouver sur la Coupe du Monde féminine pour interviewer des joueuses lors des matchs de l'équipe de France. Ça ira ?
Très bien.
Très bien. Marc Sauvourel, vous êtes journaliste, documentariste et auteur de Les Lyonnes, diffusé sur Canal Plus Family à partir de dimanche.
C'est Lyonnes,
sans
l'article.
Très bien.
Mais sinon, c'est parfait.
Et Vanessa Lemoine, vous êtes journaliste, présentatrice de l'Expresso tous les matins sur beIN Sport. Je vous félicite aussi.
Merci. Et réserviste de l'équipe de France, c'est ça, j'allais rajouter.
Il fallait le rajouter.
Elle n'a pas été prise dans les 23, mais elle est dans la liste élargie de...
Une réserviste. C'est comme moi quand je jouais au foot, j'étais toujours sur la touche. Allez, après la présentation, c'est parti. Allez, les bleus.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Mais moi, j'aimais être sur la touche. Je ne me blessais pas et je n'avais pas à courir. Rebonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. Coupe du Monde. Et oui, on est à J-2 de l'ouverture de la Coupe du Monde de football féminine qui se déroulera partout en France du 7 juin au 7 juillet. Partout et notamment sur les antennes de Radio France, la radio officielle de la Coupe du Monde. Au énervé la suite ce soir, on chausse les crampons pour parler football féminin. Alors, que peut-on attendre de notre équipe française? Quelles sont les grandes joueuses, les futurs espoirs? Comment le foot féminin est-il vécu dans les grands stades comme dans les clubs? Quelle est la spécificité de notre football féminin français? Et tiens, comment ça se passe au niveau des salaires? Bizarre, je n'ai pas l'impression que l'on joue à égalité avec les hommes. Autant de questions que l'on se pose avec ce crampon de Benoît Lagan. Alors c'est vrai que question foot, je ne touche pas tellement là-bas.
C'est vrai.
Mais en titre, je m'y connais. Ouais. Football, coup franc pour les femmes, c'est mon idée, elle est excellente.
Ouais.
Vous avez pensé à quoi?
Bon non, j'avais une.
C'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Bon, moi, c'est les titres et vous, c'est l'éditorial.
Voilà, c'est ça, Laurent. À deux jours du premier match de la Coupe du Monde de football qui va voir les Bleus s'opposer à la Corée du Sud, tout roule pour les femmes dans le football. Non seulement l'ensemble des médias s'intéresse à l'événement et s'organise pour le couvrir, mais si je compte bien les articles, les livres et les documentaires produits, jamais, jamais on avait autant entendu parler de foot féminin et ça, ça fait du bien. Cela veut-il dire pour autant que tout va bien dans le monde du foot? Une fois les crampons chaussés, l'équité entre filles et garçons dans les mondes impitoyables du football est-elle enfin respectée, cette fameuse équité? Tenez, dernier épisode en date, mercredi dernier, la réunion symbolique des Bleus. Alors, des Bleus S, avec les Bleus ES et les Bleuets ETS, à Clairefontaine. Je vous explique, Laurent. Déjà, Clairefontaine, ce n'est pas que les cahiers, hein, vous savez, vous qui ne connaissez rien en foot. C'est le centre d'entraînement de l'équipe de France située dans les Yvelines. Eh bien, mercredi dernier, le château de Clairefontaine, où loge et s'entraînent les équipes de France de football, accueillait les trois sélections. La sélection féminine, la sélection masculine et les espoirs, les jeunes de moins de 21 ans. Les trois équipes étaient réunies pour dîner en commun devant la finale de la Ligue Europa. C'était une première. Pendant que les espoirs donc se préparaient pour l'Euro des moins de 21 ans, les Bleus champions du monde se réunissaient avant un match amical contre la Bolivie et un match de qualification pour l'Euro 2020. Et bien évidemment, les Bleus sont en pleine préparation du mondial organisé en France qui débute donc ce vendredi. Et du coup, polémique, on apprend que les filles doivent laisser leur chambre aux garçons pour se loger un peu plus loin, comme si les filles en compétition mondiale devaient céder la priorité aux garçons pour un match amical. Faut-il voir dans cette polémique l'énième problématique symbolique d'un sport qui considère que le masculin l'emporte toujours sur le féminin? Bref, deux poids, deux mesures ou fausse polémique? Nadia Ben Mokhtar.
Bonjour.
Vraie polémique.
Je pense que tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. Effectivement, si les faits tels qu'ils sont racontés sont réels, c'est-à-dire on doit faire nos bagages pour laisser la place, c'est évidemment scandaleux. En revanche, il faut quand même prendre en compte que la FIFA oblige les nations à déménager de temps en temps, parce que c'est pour assurer l'équité de toutes les nations par rapport à la nation qui reçoit la Coupe du Monde. Donc je sais qu'il y a eu un certain niveau d'argumentation disant que c'était pour en fait se plier au règlement de la FIFA que les joueuses de l'équipe de France ont déménagé ponctuellement, et ça a été le cas mercredi dernier. Donc à voir la justification réelle pour savoir si c'est vraiment un scandale ou pas.
Vanessa, commentaire autour de la table.
Après, il faut dire qu'on scrute aussi tout ce qui se passe et que j'étais la première, moi, en train d'essayer de voir quand ils ont mangé ensemble le soir s'ils avaient fait des tables filles et des tables garçons, qui a été mis avec qui. Non, ils ont mélangé, je crois.
Oui, ils ont complètement mélangé. Des espoirs avec des A, avec des filles, tout était mélangé.
Mais du coup, c'est vrai qu'on est attentif à une éventuelle polémique. Et donc, ce qui fait que, on va dire, peu importe ce qui va se passer, on aurait dit quelque chose, en fait. Donc, on l'aurait relevé. Par exemple, elle serait restée dans le château, on aurait dit...
Elle reste dans le château.
Elle reste dans le château, voilà.
Alors, au-delà, pour parler quand même de la Coupe du Monde de foot féminin, est-ce que vous avez vraiment le sentiment, au vu justement des livres qui paraissent, des articles, de tout ce que l'on met en œuvre aujourd'hui autour de cet événement, que ça y est, on est en train véritablement de changer l'image du foot féminin et qu'on en parle véritablement?
Ah oui, moi qui l'ai vécu de l'intérieur. En 2015, on était au Canada à la dernière Coupe du Monde. Il n'y avait pas autant de monde qui s'intéressait. Il n'y avait pas deux chaînes de télévision qui transmettaient l'intégralité des matchs. C'était compliqué pour nos familles parfois de voir les matchs. Il y avait quelques journalistes qui se battaient en duel dans le stade pour nous, pour l'équipe de France. Là, tout a changé. L'engouement est énorme. Les sponsors sont énormes pour cette Coupe du Monde. Il y a des maillots dédiés à chaque équipe féminine. Avant, on portait la coupe féminine du maillot qui était des garçons. Tout a changé. Tout est révolutionné. Là, on en parle partout, dans tous les pays. Certes, nous, on est en France, c'est en France. Donc, on a l'impression vraiment que ça évolue. Mais dans tous les pays, et partout dans le monde, il y a une évolution
énorme. À partir de quand il y a eu une évolution, justement, sur le regard porté sur ce sport? Marc Souvorel?
Moi, je pense que ce qui a aussi beaucoup joué cette année, c'est que nous, notre chaîne Canal+, on diffuse pour la première fois le championnat de France, la D1 féminine. Donc, du coup, enfin, faut dire la D1, d'ailleurs, le championnat de France, quoi. Et c'est vrai que même au sein de nous, de nos équipes, il y a des reporters tout le temps sur le terrain. Il y a un vrai dispositif qui est mis en place. Et ça a participé vraiment toute l'année à vraiment créer cette émulation avec en point de mire cette Coupe du Monde féminine. Et moi, je vais vous faire une confidence. J'ai essayé de trouver des places sur Internet hier pour le deuxième match de l'équipe de France qui est à Rennes contre Nigeria. Et il n'y en a plus.
Il y en a, mais il faut être très, très riche. Il y en a au marché noir, j'imagine.
Les places, pour le coup, sont vraiment accessibles. Et ça, c'est une très, très bonne idée parce que ça va permettre aux gens de venir voir les Bleus notamment, mais aussi les autres matchs. Mais c'est vrai que les places sont parties assez vite.
La fédération s'est battue pour ça auprès de la FIFA, pour faire des places vraiment à 9€, parce qu'ils se sont dit place de cinéma, etc., prix pour une famille. Si une famille veut venir à 3 ou à 4 pour aller voir un match de foot, voir un match de la Coupe du Monde, bah, ça équivaut à aller voir un film au cinéma tous ensemble. En fait, c'était vraiment le but de la fédération. La fédération s'est vraiment battue auprès de la FIFA pour obtenir ces places-là à ces prix-là pour permettre que ça soit une compétition vraiment familiale aussi.
On l'a vu vendredi d'ailleurs avec le match de Amical de la France face à la Chine. Ouais. Juste pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Marc et pour apporter un petit éclairage de ce qui s'est passé aussi en coulisses derrière et pour être complètement transparent, le fait d'avoir des nanas aussi en tant que journaliste, ça aide depuis quelques années. C'est-à-dire
bien
que
sûr.
Moi, quand j'ai commencé et que je me retrouvais en conf de rédac et compagnie, qu'il fallait faire les conducteurs, évidemment, moi, je voulais passer des offres de foot féminin. Et la question, le problème qu'on pouvait rencontrer, c'était qu'effectivement, ah ouais, mais c'est pas filmé. Et ça, au tout début, quand j'ai commencé, c'est véridique. Les matchs n'étaient pas filmés. Petit à petit, on a vu une évolution. 2011, avec les résultats de la France, cette demi-finale, ça a fait exploser le truc. Les marques se sont intéressées. Les marques se sont intéressées aux joueuses de l'équipe de France, notamment, parce qu'il y avait d'autres représentantes dans le monde, avec les Américaines, les Brésiliennes, qui ont été vraiment de vraies ambassadrices pour le football féminin. Après, en coulisses, on a quand même, nous, le CSA, je pense que Marc le dira, il y a eu toute une opération qui a été menée pour le développement du sport féminin en général, avec une journée dédiée, puis une semaine où nous avons l'obligation, après c'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de punition si on le fait pas, mais on nous incite, et moi je le sais parce que je suis porteuse de ce genre de choses à Beansport, chaque année je dois faire mon compte rendu du nombre de femmes que j'ai reçues, ce qu'elles ont pu dire par rapport à la parité et compagnie, donc il y a ça aussi, il y a eu un effort qui a été fait derrière pour pousser à la diffusion et à ce qu'on voit les femmes en fait dans les médias tout simplement.
Nadia Ben Mokhtar.
Oui, je suis d'accord. Il y a eu un vrai coup de projecteur à l'issue de la Coupe du Monde 2011 et on s'est rendu compte qu'on a beau faire tous les plans de féminisation possibles, c'est finalement quand l'équipe a performé, qu'elles sont sorties des poules, qu'elles ont commencé à faire les unes de l'équipe, des directs en télé, etc. Les Jeux Olympiques derrière, parce que du coup, qui dit bon résultat en Coupe du Monde, dit qualification aux Jeux Olympiques, qui est également un moment fort en termes d'engouement médiatique. Et petit à petit, on a non seulement commencer à connaître les joueuses, valoriser les résultats. Les campagnes européennes de Lyon ont nourri aussi cette success story du football français. Et maintenant, je pense qu'on arrive à un niveau de maturité avec des joueuses connues qui peuvent être aussi des modèles pour les petites filles qui veulent jouer au foot féminin demain. Des infrastructures qui permettent une diffusion des matchs qui est plus qualitative qu'avant, où on avait des stades moyens, du coup des mauvaises images, etc. Donc c'est un cercle vertueux dans lequel on est entré. Je pense que ça continuera à progresser, et notamment avec cette Coupe du Monde.
Juste une question par rapport à la féminisation. Vous parlez du fait des journalistes femmes, des commentatrices, des joueuses, mais dans les instances dirigeantes du football mondial, par exemple, pas simplement français, il y a beaucoup de femmes ?
Il y en a de plus en plus. Mais
dirigeantes de clubs aussi ?
Il y en a de plus en plus aussi. Ouais. Après, effectivement, elles sont minoritaires. Il y a le Club des 100 qui a été lancé par la Fédération avec Brigitte Henriques. Il y en a de plus en plus et c'est un vrai enjeu justement de voir des dirigeantes aujourd'hui, des femmes à des postes clés. Moi, il y avait une photo qui m'avait particulièrement marquée et là, je sors un petit peu du foot, mais c'est un déplacement de Roxana Maracineanu, donc notre ministre des Sports, qui emmène une délégation en gros de toutes les entreprises qui sont liées au sport pour rencontrer leurs homologues. Je crois que c'était au Japon ou un truc comme ça. Et la photo, elle est terrible. Elle est toute seule. C'est la seule femme. Avec 20 hommes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle image, en fait, on en voit? Et régulièrement, en fait, on voit des photos sortir comme ça où il y avait des colloques sur voilà le sport féminin, la féminisation, et avec des hommes.
Et pour le coup, la Fédération Française de Football est un magnifique professeur, j'ai envie de dire, dans le sens où on a Noël Le Graët qui est le président, ouais. Mais la vice-présidente, c'est une femme, Brigitte Henriques, la secrétaire générale est une femme, Laura Georges, etc., etc. Et la Ligue de football est dirigée par une femme. Je pense que dans le football français, pour le coup, on est un très bon élève.
Tout de suite, je vous propose d'écouter une autre équipe de battantes, les Supremes, avec Someday We'll Be Together. Oui, la musique aussi, c'est un travail d'équipe.
Say it again.
Someday We'll Be Together, on espère que ce sera le 7 juillet prochain sur les Champs-Élysées pour fêter une nouvelle victoire du football français.
J-2 avant le début de la Coupe du Monde de football féminin. Tous et toutes à vos maillots.
C'est du foot, c'est la même chose, c'est juste que c'est des filles qui jouent.
France Inter. C'est vrai que c'est l'une des premières années où on sent un tel engouement.
Je pense que c'est votre année. Et donc c'est maintenant que vous devez gagner. Donc c'est pas pour vous mettre la pression.
Le nouveau rendez-vous.
Je peux vous dire qu'elles ont souffert. On est vraiment toutes tournées vers le travail.
Le fait que là on soit médiatisées, on sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur.
C'est le grand rendez-vous de ma carrière.
On l'a réclamé, maintenant on l'a. Il faut montrer.
Laurent Goumard.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite là?
Une Coupe du Monde serait pas mal. Hein.
En avant.
Vous avez reconnu qui sont les intervenantes?
Il y avait Eugénie.
Eugénie Le Sommer, ouais. Joueuse. Amandine Henry.
Et pas Sarah.
Et Corinne Diacre. Et Emmanuel Macron, qui vous fout la pression. J'espère bien qu'il vous la fout. J-2 avant l'ouverture de la Coupe du Monde féminine en France. On en parle avec nos invités, des footballeuses désormais consultantes. Nadia Benmokhtar de l'équipe de Radio France, Jessica Ouara de l'équipe de Canal+, et deux journalistes observateurs, le documentariste Marc Souvorel et Vanessa Lemoine de beIN Sport. Le premier match aura donc lieu vendredi. Les Françaises vont s'opposer aux Coréennes. Ça va être facile pour les joueuses, pour les Bleus?
Non, pas du tout.
Jessica Ouara, non.
Parce qu'il y a une pression derrière les Bleus. Un premier match de Coupe du Monde est toujours difficile. L'ayant vécu il y a 4 ans au Canada, le premier match face à l'Angleterre a été particulièrement compliqué. Même le deuxième match face à la Colombie. Et là, en plus de ça, elles sont en France. Il y a une attente énorme derrière elles. Et donc forcément, pour moi, le plus gros adversaire des Bleus sur ce premier match, c'est elles-mêmes.
Ah, c'est les Bleus, ouais. C'est pas les Coréennes.
Non, on est censé, intrinsèquement parlant, être très clairement supérieur aux Coréennes. Maintenant, c'est savoir comment les filles vont gérer cette pression-là, ce premier match-là de Coupe du Monde où tout le monde les attend.
Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, en fait. Quand est-ce qu'on l'a su? Tu te souviens, Jessica,
Vanessa
ou pas?
Ouais.
Moi, je me souviens t'avoir reçu justement sur le plateau. Et en fait, ma question systématique, il y avait ce Mondial 2019 qui arrivait. À l'époque, tu n'avais pas encore annoncé que tu prenais ta retraite et compagnie. Mm-hmm. Donc, c'est des questions qui revenaient. Et en fait, chacune avait déjà ça en tête.
Tous les jours.
Et se préparait à ce grand rendez-vous-là parce que c'était en France. Et que c'est comme s'il y avait cet ingrédient, ce petit supplément d'âme en plus qui allait permettre en fait aux Françaises de remporter enfin une compétition en fait.
Marc Souvorel.
Oui, puis au-delà de ça, les Bleus de 98 à domicile l'ont fait, ont remporté leur Coupe du Monde et leur premier match. Là, il y a les Bleus de 2018 effectivement qui sont champions du monde. Donc forcément, ça crée aussi une attente de la part du public de se dire les Bleus ES doivent aussi le faire quoi.
Mais comment elles se préparent et comment elles travaillent? Tout à l'heure, vous disiez que voir des matchs, c'était parfois compliqué, même pour les familles, pour voir les matchs d'équipe, c'était compliqué. Quand on est une équipe de France et qu'on veut connaître le jeu des Coréennes de façon précise, comment on cherche, comment on travaille?
On prend un avion et on y va, on va sur le terrain.
Non, il y a
comment
tellement, il y a tous les matchs. Je pense que dès l'instant où Corinne Diacre a su le groupe et les groupes sont tombés, la fédération a mis en place des gens qu'elle a observés. Tous les matchs de la Corée, très clairement, en vidéo, ou qu'elle allait les observer sur place, sur les différents tournois, etc., que ce soit la Corée, la Norvège ou le Nigeria, dès l'instant où on connaît les groupes de la fédération et les potentiels aussi adversaires, que ce soit en huitième, en quart, etc. Il y a tout un dispositif et toute une équipe mise en place pour observer les
équipes. Alors, quelles sont les équipes qu'on redoute le plus, Nadia Benmokhtar?
Au sein de notre groupe, je dirais peut-être la Norvège, parce que c'est une grande nation du football, même si, comme l'a dit Jessica, entre la Corée, le Nigeria et la Norvège, c'est trois styles tellement différents et opposés les uns des autres que ça sera aussi la gestion de la pression, la manière de rentrer dans la compétition. Après, pour la suite sur la Coupe du Monde, globalement, on a des favoris qui se détachent, les Américaines, évidemment.
Qui sont tenantes du titre.
Qui sont tenantes du titre, qui ont un effectif de stars, qui sont hyper bien préparés toute l'année avec un vrai focus pour la Coupe du Monde depuis des mois déjà. L'Allemagne, qui fait toujours partie des nations favorites. Pour ma part, je dirais peut-être le Japon, finaliste des deux dernières éditions de la Coupe du Monde, qui propose un jeu qui est toujours hyper agréable et tourné vers l'avant. Et peut-être
un jeu agréable,
dernier,
c'est un jeu tourné l'anglais. Vers l'avant.
Ouais, c'est un jeu qui est hyper offensif, rapide, très technique au sol. À mon sens, pour les amateurs de foot, on peut faire le parallèle avec le jeu du Barça, le jeu espagnol. Ouais, c'est un jeu qui est particulièrement positif.
Et nous, on a quel type de jeu alors ici en France?
Le style français, c'est quoi?
Le style français, c'est quoi?
Moi, c'est pas moi qu'il faut demander ça.
Jessica Ouara.
Le style français, c'est le jeu de possession. Très clairement, c'est ce qui nous caractérise depuis des années.
De possession,
c'est d'avoir tout le temps le ballon, jouer au foot, d'aimer avoir le ballon. On est une équipe qui aime avoir le ballon.
De jouer perso alors.
Non, pas du tout. C'est un sport collectif.
Mais j'ai bien compris.
Mais c'est vrai que perso, des fois, on mange un peu.
Mais pour le coup, c'est vraiment ce qui caractérise cette équipe de France depuis des années. Et c'est vraiment d'aimer avoir le ballon en fait.
C'est vrai. Avec des choses très techniques aussi. On l'a vu vendredi dernier, Sakina Kershaoui qui garde le ballon, qui essaye de faire des petits passements de jambes, hop, de passer un petit pont. Ouais, c'est vrai que ça caractérise la France. Ça joue quoi en fait.
Marc Sauvorel, vous qui les avez filmés.
Oui, je rebondis sur ce que dit effectivement Jessica, c'est le jeu de possession. Et on l'a vu d'ailleurs lorsque les Bleus se sont préparés. Elles ont joué contre les Américaines championnes du monde et elles les ont mangées, clairement. Après, ça reste un match de préparation.
La France a gagné contre les États-Unis au mois de janvier. Les États-Unis ont un championnat totalement différent du championnat de France, donc jouent de mars à octobre. Donc
elles revenaient de vacances.
Elles revenaient de vacances. C'était pas une équipe type. Faut faire attention à ce match-là, même si les Françaises ont très bien joué, mais c'était pas l'équipe des États-Unis qui va jouer cette Coupe.
Il faut toujours se méfier des matchs amicaux. On a certaines nations qui sont des très grosses machines, qui mettent un peu de temps à se mettre en route. Et quand on les joue à 6 mois d'une compétition, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Allemagne. Quand on les joue à 6 mois d'une compétition, on a l'impression que c'est facile. Et puis 6 mois après, en fait, c'est plus la même équipe, c'est le rouleau compresseur qui est lancé. Et il faut toujours se méfier, je pense, des résultats des matchs de préparation.
Et nous, à l'inverse, on a été très souvent les championnes du monde des matchs amicaux. Et après, en compétition, c'était plus compliqué.
Mais pour revenir au football français, quand on avait fait une émission ici même sur le rugby féminin il y a quelques mois, on nous avait expliqué que le rugby féminin, ce qui était intéressant, c'est que le rugby féminin revenait à un rugby des années 70, un rugby plus fluide. Est-ce que vous remarquez la même chose par rapport au football? Est-ce que les Françaises jouent un football, finalement, peut-être plus originel par rapport au football que les hommes peuvent jouer aujourd'hui?
Plus fluide, oui, peut-être, dans le sens où on est peut-être un peu plus dans l'évitement que dans le contact même. On aime bien le beau jeu. On n'a rien à envier tactiquement, techniquement au football masculin. Forcément, physiologiquement parlant, on est un peu plus lente. C'est la physiologie de la femme dans tous les sports. Et donc, du coup, on joue peut-être un football différent, un football, comme vous le disiez, peut-être plus originel, parce que à l'époque, toutes les qualités physiques de l'homme n'étaient pas totalement développées. Donc, c'est peut-être en ça qu'on revient peut-être au football des années 70, comme vous le disiez.
Et l'erreur, c'est la comparaison.
C'est ça.
C'est sûr. Mais ce qui fait souvent plaisir, par contre, aux téléspectateurs de football, c'est que on n'est pas encore tombé dans les dérives masculine, on va dire, qu'on trouve dans le foot masculin en tout cas, de bluffer, de gagner du temps, de simuler, d'enrager sur les contacts. Mais c'est la vérité. Et souvent, les personnes qui regardent des matchs féminins pour la première fois disent « ça fait du bien quand même ».
Mais même quand on les commente, le temps de jeu effectif, moi qui ai commenté toute la D1 féminine cette saison sur les antennes de Canal, et qui ai commenté aussi la Ligue 1, ça n'a rien à voir en fait en commentaire, parce que tout va plus vite, il y a beaucoup moins de temps d'arrêt dans le jeu, il y a beaucoup plus de jeu, de temps de jeu effectif, parce qu'il y a moins de simulation, parce qu'il y a moins de... On parle pas tout le temps pendant 5 minutes avec l'arbitre, etc., etc.
Oui, ils mettent pas 5 minutes à tirer un coup.
Voilà, et donc du coup, et en fait, on est tout le temps en fait en train de, dans le commentaire pur du match, et non à commenter des choses extérieures, on va dire.
Moi, il y a un truc qui m'intéresse, par rapport aussi à l'impression. L'impression, elle est importante. Après, je vous parle de ça et j'y pense parce que j'écoute ce que dit Jessica. Mais aujourd'hui, quand on regarde un match de foot féminin à la télévision, on a toujours une impression que ça va moins vite, que si, que ça. On entend les joueuses qui parlent. Mais il y a aussi, et peut-être que Marc peut en parler, c'est la réalisation aussi d'un match. Et j'ai hâte de voir comment va se dérouler cette Coupe du Monde. En termes de réalisation, combien de caméras vont être mises en place un match?
C'est ça. Parce qu'en termes de découpage, c'est pas la même chose si on n'a que 2 caméras ou 50.
Exactement.
Bien entendu,
donc,
bien
du coup, ça donne, ça donne moins une impression d'amateurisme et moins l'impression de regarder un match de CFA ou de DH, en fait.
On l'a vu avec les matchs sur Canal+, mis en prime time. les Lyon PSG, les deux Lyon PSG de cette saison de D1 féminine. Donc Lyon et PSG sont les deux plus grosses équipes du championnat de France de D1 depuis plusieurs années.
On l'a vu aussi sur Beansport avec les matchs de Paris Saint-Germain.
Et on l'a bien écouté aussi sur Radio France. Continuez.
Non, et donc du coup on le voit.
Elle est maline.
Le 19.
Ouais, très très maline.
Qu'à faire autant de ça.
Elle chef d'écoute ou quoi?
Elle joue, elle se la joue perso. J'avais bien identifié tout à l'heure.
Je te fais dépasser depuis tout à l'heure.
Non, pour voilà. le coup, il y avait un dispositif complètement différent de ce qui est habituel pour Canal, pour le coup, en D1 féminine toute l'année. Et donc là, il y avait un vrai dispositif digne de le dispositif de Ligue 1. Et donc du coup, le rendu télé, moi je l'étais sur place, donc je voyais pas le rendu télé, mais pour les gens qui ont regardé, les gens que je connais, on dit ça a rien à voir. Et on a l'impression que ça allait plus vite.
Et tout,
mais ça allait pas plus vite en fait, c'était exactement la même chose, sauf que c'est réalisé d'une manière totalement différente.
Ouais. Allez, je pense que la clé c'est de mettre la caméra au terrain. Moi j'ai eu la chance de suivre Amel Majri, l'une des joueuses de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France. Moi je n'avais dû que pour elle toute cette année. Et du coup, j'avais vraiment ma caméra vraiment focus sur elle, donc déjà il n'y a aucun temps mort, et j'avais la chance d'être à sa hauteur. Effectivement, quand on est à la hauteur des joueuses, on se rend vraiment compte de la vitesse, et on se rend compte que c'est très technique, il y a un toucher de balle qui est très rapide, les mouvements s'enchaînent vraiment très vite, et là il y a une vitesse qui est incroyable. Effectivement, il y a une vraie vitesse par rapport à ce que ça peut rendre sur une caméra qui est un peu plus éloignée et qui écrase la perspective.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième mi-temps du NRV. Je sais, il n'y a pas troisième mi-temps, mais moi j'aime ça.
J'ai dit des choses que je pensais pas, accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Tu changes et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça. Transformation.
Castelmore, signé Flavien Berger, il sera en concert dans tous les festivals cet été, au Fnac Live par exemple à Paris le 4 juillet, à Beauregard par exemple, et bien le 6 juillet prochain. Et
c'est oui, bien, Benoît.
Je
c'est
note. Bien, hein. Notez.
Rendez-vous.
Allez, vas-y.
Et qui c'est qui va marquer?
C'est
le nouveau rendez-vous.
C'est bien détendu, hein.
J'ai fait du foot parce que j'aime bien courir, marquer, tout ça.
Et aussi la technique.
Alexer !
Chiara, démarque-toi !
Collectif. Moi, j'aime bien le collectif.
Lâche, c'est bien !
Laurent Goumard.
Remets ! Allez !
Sur France Inter.
Les femmes sont-elles l'avenir des sports collectifs en France? C'est le sujet du NRV ce soir à propos de la Coupe du Monde féminine. On en parle avec nos invités. Marc Sauvorel, à l'instant, on vient d'entendre des extraits de votre film Lyon, qui suit quatre adolescentes entre 12 et 15 ans qui jouent au football dans le club de leur quartier Les Minguettes. En parallèle, Amel Majri, 26 ans, qui jouait à l'Olympique Lyonnais et en équipe de France. C'était quoi l'idée au départ des filles qui veulent s'imposer sur un terrain dans leur quartier?
Ouais, ça c'était mon idée de départ effectivement, d'essayer de suivre des jeunes filles de quartier, parce que dans les quartiers évidemment on joue beaucoup au foot, les garçons jouent beaucoup au foot, mais les filles aussi. Et du coup on voulait aussi présenter l'une des joueuses de l'équipe de France qui allait être amenée à faire la Coupe du Monde, donc Amel Majri, qui est originaire du quartier des Minguettes de Vénissieux. Et donc je suis allé effectivement au quartier, d'abord au club de Vénissieux, pour m'entretenir avec le responsable de ces jeunes filles, et puis elles jouent à la fois en club mais aussi en bas de leur immeuble dans leur quartier. Et elles sont fans d'Amel, donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Jessica Ouara, comment une petite fille a eu l'idée de taper dans un ballon? comment la petite fille que vous avez été a-t-elle eu l'idée de taper dans un ballon? J'aurais la même question pour vous, Nadia Ben Mokhtar. Et si vous me répondez comme un garçon, je vous dirais, ça a déjà été dit.
Mais comme un garçon, généralement les garçons ont une vocation, c'est le papa, le grand frère. Bah, moi c'était ça, mon papa entraînait, joue au foot, mon grand frère joue au foot. Envie de faire comme le papa et comme le grand frère, tout simplement.
Et c'est vous qui vous en êtes sortie?
Apparemment, entre les trois.
Vous, Nadia?
Ouais, c'est le même style d'histoire. J'avais un père qui était joueur professionnel.
Ah ouais, quand même, d'accord. Dans les deux cas, c'est ça.
Et on a un peu tapé le ballon. Et puis, dans la cour d'école, avec beaucoup de garçons et quelques filles. Et puis, en club, j'ai commencé à 7 ans en club. Et contrairement à pas mal de filles qui commencent, qui arrêtent comme des garçons, moi, j'ai décidé de poursuivre jusqu'au bout. Et
donc, il y avait un accord parental évident. Est-ce que c'est le cas pour les filles que vous avez suivies, Marc Souverel?
Oui, toutes. Pourquoi vous ne me posez pas la question?
Ah oui, ah
oui. Moi aussi, j'ai une histoire par rapport au foot. Hein.
Bah, j'en ressens deux.
Alors, figurez-vous, je suis née à Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est là où il y a le camp des loges, le Paris Saint-Germain. Ouais, ouais. Et que moi, j'ai baigné complètement là-dedans et que je voulais faire du foot quand j'étais petite.
Vanessa Lemoine.
Donc, je jouais dehors avec mes copains et compagnie. J'ai plein de mes meilleurs potes. D'ailleurs, joué au PSG. On fait l'école de formation et compagnie. Eh ben, j'ai été. Et en fait, ma mère me raconte ça, je m'en souviens même pas. Ma mère me raconte ça en me disant que je me suis pris un tacle. C'est pas un tacle, je pense. À mon avis, j'ai reçu un croche-pied, je suis tombée, j'ai encore la cicatrice. Et après, elle m'a dit non, tu vas pas faire du foot, en fait.
Ah, sinon, vous seriez destinée à ça.
Mais bah oui, j'aurais été faire du foot, ouais, carrément.
Elle aurait fait la couche.
C'est important parce que je pense que Jessica et moi, on est à peu près de la même génération et on fait partie des exceptions, finalement. Parce qu'en fait, on a dit à nos parents, je veux jouer au foot. Et on y a joué. Et en fait, d'après certaines statistiques, 8 filles sur 10 à l'époque qui voulaient jouer au foot, on leur disait non, c'est un sport de garçon.
Ou alors,
ou quand elles allaient se présenter au club, on leur disait non, on prend pas les filles. Et en fait, du coup, c'est pour ça que la médiatisation de l'équipe de France, de la Coupe du Monde, etc., c'est aussi un moyen de se dire, en fait, d'une, c'est possible. Deux, ça existe. Trois, même si ma fille joue au foot, ça va pas devenir un garçon ou je sais pas quel stéréotype on peut avoir en tête derrière tout ça. Et les clubs ouvrent maintenant leurs portes aux petites filles, autant qu'aux petits garçons. Et c'est hyper important pour ça de créer des modèles de réussite féminin.
Les joueuses les joueuses viennent de quel milieu social en majorité?
Quartier.
Quartier.
Ouais, quand je rencontre toutes les joueuses de l'équipe de France et compagnie, mais parce que c'est vrai qu'il y a une facilité de jouer en bas de l'immeuble, ce qui est peut-être moins dans les quartiers résidentiels, j'ai envie de dire. Mais après, le football, c'est aussi quelque chose d'assez c'est mondial. Finalement, qu'on soit pauvre, riche, il n'y a pas d'importance. Quand on est sur un terrain, on est tous les mêmes. Donc, au départ, dans celles que je rencontre, hein, après, peut-être que les filles ou Marc...
Moi, j'ai l'impression qu'il y a même une unité sociale, non?
Ouais, moi, je pense que ça évolue Nadia aussi, Ben-Mokhtar. En fait. Je pense que ma génération, c'était pas du tout des filles de quartier.
Ouais,
au contraire.
C'est
ça. Parce que les filles de quartier, peut-être qu'on leur disait...
Par contre,
il y avait peut-être plus de freins
sociologiques.
À qui on disait non, ça c'est un sport de garçon. Il y avait peut-être plus de segmentation homme-femme encore dans les milieux, on va dire, populaires. J'ai l'impression que dans nos générations, c'était très mixte, finalement.
Ouais, c'est ça. Juste par rapport à cet aspect social, il y a quelque chose, je me faisais la réflexion la dernière fois, c'est qu'en 1998, moi, 1990, c'est ce qui m'a permis, moi, de devenir journaliste sportif. Clairement, parce qu'on a recherché des femmes, on a voulu impliquer les femmes, parce qu'on a vu beaucoup de femmes à la télévision, en tant que supportrices, parler et compagnie. En revanche, si ça a aidé le football dans les quartiers, je trouve qu'on a loupé le coche à ce moment-là pour les petites filles. C'est-à-dire qu'Aimé Jacquet, en sortant de cette Coupe du Monde, il crée quand même une section féminine à Clairefontaine, parce que pour lui, c'était très important. Mais ça n'a pas suivi, en fait. C'est-à-dire que oui, les filles ont commencé à arriver au centre de formation et compagnie, mais les médias et autres, ou même les acteurs sociaux, n'ont pas encouragé à ce moment-là, n'ont pas surfé sur cette vague-là. Après, c'est peut-être un problème aussi d'investissement, d'argent. Ça a été plus investi dans les quartiers que dans le foot féminin et compagnie. Mais il n'y avait pas de préoccupation. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une réelle préoccupation. Donc ça permet d'avoir de plus en plus d'essor à ce niveau-là.
Mais Marc Sauvourel, donc aux Minguettes, garçons et filles avec le foot, c'est le même combat ?
Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, les filles, et c'est le cas d'Amel d'ailleurs, ont envie, en voyant les garçons jouer en bas, d'aller se mêler aussi au jeu. Et elles le font. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement en bas des immeubles presque autant de filles que de garçons. En tout cas, c'est le cas aux Minguettes. Elles n'ont aucun problème, les filles, à descendre, à aller jouer au foot. Et leurs parents les encouragent à faire ça. Alors il y a toujours des réflexions, parce qu'il y a toujours des personnes, on va dire vieille école, qui disent voilà, pourquoi bien tu sûr, mets ta fille au foot, ouais. C'est un sport de garçon. Elles entendent encore, et d'ailleurs elles s'expriment d'ailleurs dans le documentaire qui passera dimanche sur Canal+ Family. Elles s'expriment là-dessus en disant effectivement, moi on me dit que je suis un garçon. Voilà, même les parents entendent des réflexions, mais aujourd'hui il y a quand même, et puis il y a une formidable locomotive aussi à Vénissieux dans le quartier de Minguettes, c'est qu'il y a le club de l'OL féminin pas loin qui gagne tout et qui est médiatisé aussi, et donc il y a des modèles en fait de ces filles-là, les modèles féminines, les joueuses pro pour ces filles-là. Et les parents suivent, en fait. Ça leur plaît.
Alors, parlons de modèles, justement. J'aimerais qu'on revienne aux inégalités quand même salariales. En mars dernier, les footballeuses américaines ont attaqué leur fédération en justice afin de dénoncer les inégalités salariales. Elles touchent 40% du salaire des garçons. Une initiative importante ?
Oui. Oui, d'autant plus, surtout aux États-Unis, oui. où le football féminin est un sport à la base féminin. Elles sont championnes du monde, je crois, 3 ou 4 fois, championnes olympiques. Les garçons n'ont rien gagné. D'autant plus que c'est pour ça qu'elles peuvent se permettre aussi de demander l'égalité complètement salariale, parce que on ne comprend pas et elles génèrent autant d'argent que les garçons.
Marc Sauvourel ?
Oui, ça a du sens, effectivement, comme dit Jessica, aux États-Unis, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle là-bas le soccer, chez les garçons, est beaucoup moins mis en avant, ouais. Beaucoup moins médiatisé. Il y a beaucoup moins de spectacles aussi. Il y a plus de spectacles chez les filles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde au stade. On n'a pas la même chose en France, par exemple. Donc, ouais. Le combat
donc, ça
des
veut dire
Américains
que l'inégalité salariale en France, c'est pas pour demain, alors, à cause de ça.
Pour moi, il faut Jessica voir. Ouais, pour moi, il faut voir un club de foot comme une entreprise. Il faut pas. Les filles, à l'heure actuelle, on peut pas demander à avoir le même salaire qu'un garçon, parce qu'on ne génère pas autant d'argent pour un club qu'un garçon. Il faut être honnête. Si le PSG met autant d'argent sur Neymar, c'est qu'ils savent qu'il y a retour sur investissement, que ce soit en merchandising, en place dans les stades, en monde dans les stades, en droit télé, en plein de choses. Nous, à l'heure actuelle, on ne génère pas tout ça. On ne peut pas se permettre de demander l'égalité salariale.
Donc en France, par exemple, mais en Norvège, on le pourrait, parce qu'Ada Egerberg, qui dit ne va pas jouer pour cette Coupe du Monde, notamment parmi les raisons pour protester contre les inégalités salariales, elle a raison de le faire. C'est-à-dire qu'elle est en position de force en Norvège.
Oui, je pense qu'en Norvège, le football féminin, c'est, enfin, dans les pays scandinaves, le football féminin est là depuis des années.
Nadia Ben Mokhtar.
Ouais, moi j'ai un rapport un peu schizophrénique avec l'égalité salariale dans le football, parce que je le prône au quotidien, en entreprise, à compétences égales, salaire égal, évidemment, et ça devrait même plus être un débat dans la société. En revanche, le foot en France est tellement hors norme chez les garçons. Que je suis pas sûre qu'il faut que ce soit l'objectif, en fait. Je pense que l'objectif pour une joueuse qui joue au foot, c'est de gagner sa vie correctement, de s'entraîner dans de bonnes conditions, d'avoir un suivi médical adapté. Tout ce qui fait qu'une sportive de haut niveau, mais tout sport confondu, est dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à des salaires à 400 000, 500 000 euros? Objectivement, tant qu'on ne drainera pas de millions médiatiquement et en sponsoring, je suis pas sûre que ce doit être l'objectif.
Quand vous étiez joueuse toutes les deux, vous gagniez correctement votre vie?
Moi, sur les 5 dernières années, j'ai été professionnelle. Avant, toutes mes autres années, je travaillais mes 35 heures la journée. Le soir, j'allais au foot. Et pour aller en équipe de France, je prenais mes RTT au travail.
Non, évidemment. Moi, j'avais même pas le statut professionnel. Hein. Pourtant, on jouait en D1, Ligue des Champions, etc. Mais j'étais pas professionnelle. Mais en revanche, il y avait un vrai choix de faire un double projet et de réussir tant professionnellement que sur le terrain. Donc toutes les conditions étaient mises en place en termes d'aménagement horaire, de facilité d'accès pour aller à l'entraînement, pour aller voir du staff médical, etc. Donc on était dans de bonnes conditions de pratique, mais par contre financièrement on n'en vivait pas.
Et Vanessa Lemoyne, c'est pour ça qu'elle a choisi le journalisme.
Ou pas, parce qu'au début vous connaissez hein, les piges et compagnie, peut-être que j'aurais mieux fait d'être footballeuse. Hein. Franchement,
ça sera le mot de la fin, merci à toutes et à tous. Nadia Ben Mokhtar, on vous retrouvera sur les antennes de Radio France tout au long de la Coupe du Monde du 7 juin au 7 juillet. Jessica Ouara, le rendez-vous c'est sur Canal+. Marc Sauvourel, le film Lyon sera diffusé sur Canal+ Family à partir de dimanche prochain. Et Vanessa Lemoyne, on vous retrouve à la tête de l'Expresso tous les matins sur beIN Sport.
it into the mist. The stones go from the precipice. Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it go. Let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long.
Sisyphus, est-ce que c'est pas lui le premier homme qui aurait poussé et fait rouler une balle de pierre? Mais oui, c'est signé Andrew Bird, qui est une équipe à lui tout seul. Il est chanteur, siffleur, violoniste, guitariste. Allez les bleus! Le Énervé, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Ça recommence 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. On reste en lien, on attend vos commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram avec le hashtag EnervéFi. Ce soir, Marion Lelay et Juliette Medeviel signaient la réalisation. C'est un petit peu comme ça tous les jours. Virginie Rouzic, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Benoît Lagan, Gaëtan Lévy et Louisa Chauss pour la préparation. À la technique, Juliette Delperroux et Florent Beauvais. Aller. Demain, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec ça. Ah ouais, une émission Oh les filles. Nine Antico dessine des jeunes femmes jupes courtes et verbe haut dans son album Maléfique. Claire Richard accro au porno dans son récit Les chemins du désir. Et dans Le Énervé, la suite, Black et Mortimer. Oui, le retour bété de la marque jaune. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu m'as donné rendez-vous demain.